Radio Starbird.
Morning edition from NPR.
France Inter. Le 18-20.
Le nouveau président a mis fin à tous les droits des indigènes dans ce pays. Le nouveau président a déclaré la guerre aux peuples autochtones.
Les terres des Indiens pour faire de la place à l'agribusiness, notamment, ça se passe au Brésil. C'est une promesse électorale de Jair Bolsonaro qui se dispute aujourd'hui devant les tribunaux. Et ce sera l'escale reportage d'un jour dans le monde. Sous les radars et Amélie Perrier, vous l'avez entendu en Inde, au Botswana et aussi à Londres. Le Monde selon Trump, saison 3 et Loïc Loury ce soir avec un président Trump qui, on l'imagine, n'a pas beaucoup apprécié le speech de Spike Lee aux Oscars hier soir. Le Monde à l'envers de Jean-Marc Four avec un Benjamin Netanyahu qui est moins inamovible peut-être qu'on pouvait le penser. Avant cela, nous allons en Algérie. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Vendredi déjà donc, les Algériens dans la rue, inédit depuis la fin de la guerre civile, on l'a déjà beaucoup dit. Et puis hier, dimanche, à nouveau, avec un gros ça suffit, Abdelaziz Bouteflika, son cinquième mandat, alors qu'il a 81 ans, que son AVC l'a laissé sans voix, c'est le moins qu'on puisse dire, et que les Algériens ne l'ont pas vu depuis combien de temps d'ailleurs. Bonsoir Laetitia Bucaille.
Depuis un certain nombre d'années, en tout cas.
Visiblement, c'est en années que ça se compte.
Oui, c'est en années. Et puis surtout, ne l'ont pas entendu parler ou articuler clairement aussi depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire que ses apparitions sont même... En fait, ses apparitions sont gênantes. Son absence est gênante, mais ses apparitions sont aussi gênantes et gênent les Algériens.
Et d'ailleurs, là, il est... Je ne vous ai pas présenté, vous êtes professeur de sociologie à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, c'est quand même le minimum. On a quand même envie de dire, Laetitia Bucaille, Enfin, l'Algérie sort dans la rue. Et c'est pas enfin bien après les autres, c'est enfin parce que c'est un cinquième mandat et qu'au fond, cet état-là, cet état de statu quo existe depuis tellement d'années, depuis 2014, depuis la dernière fois, depuis l'AVC en fait.
Hein. C'est-à-dire en 2014, à l'élection présidentielle précédente, où Bouteflika avait déjà été atteint par son AVC, où cette solution du quatrième mandat déjà paraissait très improbable, il y avait eu aussi un mouvement de mobilisation, il y avait eu le mouvement Barakat, qui s'était... qui avait manifesté dans la rue, mais qui n'avait pas pu empêcher cette élection avec un score très élevé. Le problème jusqu'à maintenant, un des problèmes, c'est le fait qu'au fond, les Algériens ne croient plus en la politique. C'est-à-dire que, bien sûr, ils critiquent le système, souvent ils le vomissent, ils ne sont pas dupes. Ils sont extrêmement critiques. C'est-à-dire que la situation de l'Algérie est un petit peu spéciale, parce qu'il y a eu une expérience démocratique en 1988 qui a laissé des traces et qui a laissé des habitudes chez les Algériens. C'est-à-dire que beaucoup d'Algériens...
Le vote ne sert à rien.
Oui, mais beaucoup d'Algériens osent parler. Ce qui n'était pas possible, par exemple, sous Ben Ali en Tunisie ou sous Bachar al-Assad. C'était pas le même type de régime. Et aujourd'hui, bon, on risque, quelquefois, on peut risquer quelque chose en prenant la parole. Mais parfois, il y a eu des sorties très, très, très critiques à l'égard du pouvoir.
Et alors pourtant, on a l'impression d'une vraie surprise du pouvoir comme de l'opposition, d'ailleurs, de la première sortie de vendredi. Pourquoi cette éruption à ce moment-là? Après tout, l'annonce de Bouteflika, c'était le 10 février... dans mes souvenirs, c'est ça, 10 février, dans ces eaux-là. Oui. Donc, pourquoi cette surprise, au fond? Pourquoi maintenant? Et en prenant, encore une fois, tout le monde au dos pour vous.
C'est-à-dire que je crois que là, il y a aussi un effet de la campagne. C'est-à-dire que ces images complètement surréalistes, où on voit des meetings de campagne avec le cadre et à l'intérieur la photo de Bouteflika, et où il y a des gens qui viennent parler au cadre ou qui viennent offrir un cadeau à cette photo... Ça devient grotesque.
C'est ridicule.
Ça devient grotesque. Et je crois que les Algériens, une partie des Algériens ont honte de ce spectacle. Parce qu'ils savent que c'est vu à l'étranger. Ils savent que ça prête à rire. Et c'est vrai que c'est quand même assez inédit de voir non pas la longévité d'un chef d'État, mais de voir un chef d'État aussi malade, aussi impuissant, au fond.
Qui d'ailleurs n'est pas là, puisqu'il est en Suisse pour se faire soigner au moment où on se parle.
Oui.
Donc, manifestation vendredi, Laetitia Bucaille, avec des forces de l'ordre qui ont réellement laissé faire. Vous disiez qu'il y avait une possibilité de parler, effectivement, en Algérie. Là, pour le coup de manifester, il ne s'est rien passé d'autre dans la rue qu'une manifestation. Dimanche, un peu moins. On a commencé doucement à voir qu'il y avait des forces de l'ordre. Est-ce qu'on peut craindre un feu vert à une répression, ou au contraire, on est dans cette période en Algérie où on se dit qu'on ne peut pas non plus aller intégralement contre la rue? Comment vous lisez ça, vous?
Je pense que les dirigeants algériens vont essayer au maximum de louvoyer pour à la fois éviter un changement de régime, éviter un changement qui serait trop profond, et en même temps aussi essayer de ne pas aller dans le tout répressif, parce que ça serait extrêmement coûteux que les souvenirs de la guerre civile sont quand même assez proches, et que là aussi, hein, le pouvoir a été répressif. Donc, le pouvoir sait que les Algériens se sont beaucoup tus, à la fois parce qu'ils ne croient plus en la politique, mais aussi parce qu'effectivement, ils ont peur de cette désunion, ils ont peur de l'instabilité, ils ont peur d'un retour de l'insécurité et de la décennie noire.
Et c'est l'épouvantail qu'on agite, effectivement. Oui. Voulez-vous qu'on en revienne au sang et aux larmes, fermez les guillemets, il faut quand même se souvenir que ça avait été effectivement épouvantable. Il y avait eu, rappelez-nous le nombre de morts qu'il y avait eu dans cette période noire.
On estime qu'il y a à peu près 200 000 morts, mais ce sont des estimations, à peu près 18 000 disparus.
Et donc cette peur du chaos qu'on agite, en même temps, quand on voit les Algériens sortir, quand on entend ce qu'ils disaient vendredi et ce qu'ils disaient dimanche, sortir, c'est ne plus avoir peur aussi. Ça veut dire que ce régime ne fait absolument plus peur à qui que ce soit.
Oui, je crois que les Algériens ont davantage peur d'eux-mêmes ou de la direction que pourrait prendre ce mouvement que du régime. Et parce qu'il faut bien voir qu'effectivement, ils ont l'exemple des printemps arabes à côté d'eux, et que dans la plupart des cas, ceux qui ont tiré les marrons du feu après les manifestations courageuses des premiers démocrates, ce sont les islamistes. En Tunisie, ce sont les islamistes qui ont remporté les premières élections. Alors, il y a eu d'autres développements par la suite, mais en Égypte aussi, ce sont les islamistes qui ont remporté les élections. Et en 1990, c'était aussi les islamistes qui avaient remporté les élections en Algérie. Donc, aujourd'hui, c'est pas les islamistes qui sont dans la rue. Ce sont des gens qui en ont marre de ce ridicule, de ce système, qui n'en peuvent plus, qui trouvent ça humiliant, au fond, cette situation. Pour autant, c'est pas un programme, le fait de dire on veut pas de cinquième mandat. C'est pas un programme.
Non, et c'est pas une opposition même qui va dans la rue, c'est pas un mouvement qui est structuré par une opposition. Mmh. D'ailleurs, elle a l'air aussi surprise que le pouvoir, l'opposition, finalement.
Oui. L'opposition est sans doute prise de court, bien qu'un certain nombre d'hommes politiques qui font partie du jeu politique depuis longtemps ont critiqué, pour certains, le fait que Bouteflika se représente. Ils l'ont critiqué. Mais effectivement, je crois que l'option de la mobilisation populaire semblait écartée, comme le pouvoir algérien a réussi à empêcher cela en 2011, bien qu'en 2011, il y a eu quand même des velléités, il y a eu, c'est passé très inaperçu, d'ailleurs c'est d'une grande, enfin c'est terrible, mais il y a eu un certain nombre d'immolations en 2011, de jeunes Algériens qui s'immolaient. Mais ça n'a pas produit de mouvement collectif. Et la raison en est sans doute à la fois ce rejet de la politique de beaucoup d'Algériens, le fait de ne pas y croire, de penser que le système est trop puissant, et aussi éventuellement le fait de ne pas croire non plus en l'option islamiste, le fait que les islamistes eux-mêmes aient fait le choix de se concentrer sur la sphère sociale, d'islamiser la société et de pas faire de politique, mais aussi le fait que en 2011 le pouvoir algérien disposait de vastes ressources pour étouffer la contestation. Les prix des hydrocarbures étaient très élevés. Donc, ils ont pu distribuer aux anciens, aux moudjahidines, aux vétérans de la guerre civile, des patriotes qui avaient combattu auprès du régime, ou aux jeunes avec des prêts sans intérêt. Ils ont distribué beaucoup d'argent en 2011.
Ce qu'ils sont en totale incapacité de faire aujourd'hui.
Absolument, absolument. Là, le cours des hydrocarbures a chuté de nouveau. Et là, il n'y a plus du tout cette capacité financière. Comme il y a quelques années.
On a vu les journalistes de la télé publique, c'est la présidente qui a démissionné, je ne voudrais pas dire de bêtises, ou en tout cas l'une des grandes rédactrices en chef, qui chapeautait tout ça, qui a démissionné en disant ça ne va pas être possible. Les journalistes qui protestent aussi, puisqu'il y a eu un silence télé, radio total d'ailleurs sur les manifestations. Ça a été le cas d'ailleurs, il y a eu silence aussi dans certaines radios et télé privées. On a vu des avocats dans la rue. Est-ce qu'il se passe quand même... Qu'est-ce que ça dit quand la télé publique se soulève comme ça? Est-ce que c'est la première fois ou pas?
Oui, j'ai pas souvenir de cet événement. Je sais pas si c'est la télé publique ou si c'est une chaîne de radio. Non, c'est la télé publique.
Je crois que c'est la télé, mais
en tout cas, c'est sûr que les Algériens ont pris des habitudes. ont pris des habitudes de prise de parole et de faire des vrais reportages, de faire des vrais micro-trottoirs et de ne pas servir uniquement la voix de son maître. Donc les journalistes algériens, il y a aussi cet héritage de la décennie noire.
Radio, certain on dit dans l'oreille, pardon, parce que comme j'ai dit une bêtise, Laetitia Bucquet, c'est la chef de la radio nationale.
Parce qu'effectivement, voilà. Il me semble que la télévision nationale, c'est quand même encore très contrôlé. Et qui ont sans doute moins de marge de manœuvre. Mais les radios, effectivement, sont d'un grand dynamisme. Certaines chaînes sont d'un grand dynamisme. Et en plus, les journalistes ont cet héritage de certains qui ont continué à travailler pendant la décennie noire, alors qu'ils étaient menacés par les islamistes. Et je pense que ça donne aussi un grand courage, une certaine assurance à certains d'entre eux.
On donne beaucoup ce chiffre quand on parle de l'Algérie, 45% de la population qui a moins de 25 ans. Quand on est un jeune Algérien aujourd'hui de moins de 25 ans, qu'est-ce qu'on préfère ? Est-ce qu'on préfère se battre pour une autre forme de démocratie, pour essayer de faire avancer la démocratie, pour qu'il y ait une vraie opposition et pour qu'il y ait des élections qui ressemblent à quelque chose ? Ou est-ce qu'on préfère se battre pour traverser la Méditerranée ou partir aller ailleurs ?
Je crois que la question de la démocratie, le fait d'atteindre la démocratie, les Algériens, beaucoup d'Algériens n'y croient plus et ils sont vraiment dégoûtés de la politique. Ils pensent aussi qu'il y a des forces très structurées qui tiennent le pays, voire appuyées par l'étranger. Hein, la théorie du complot, enfin on voit que la théorie du complot fait beaucoup d'adeptes en France, mais en Algérie, c'est encore encore plus fort. Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire que c'est aussi cette habitude de jamais rien décider de son destin qui fait qu'on pense, qu'on reste persuadé que les choses sont tenues, que les politiciens qu'on voit sont des marionnettes. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'Algériens qui bien sûr sont très blessés de voir leur pays dans cet état et qui rêveraient d'une autre Algérie, mais qui pour certains qui ont baissé les bras. Alors est-ce que ces événements des derniers jours vont fédérer des espoirs? Peut-être.
Mais est-ce qu'il y a au moins un plan B, une succession? Parce qu'on a bien vu qu'il y avait une incapacité à une succession, oui, sinon alors, elle serait là, la succession. Donc est-ce qu'il y a un plan B ou justement non?
Ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que va faire le pouvoir avec la candidature de cet homme d'affaires franco-algérien.
Ah.
Qui se présente aux élections.
Rachid Nekaz, vous parlez de Rachid Nekaz?
Voilà, de Rachid Nekaz, exactement. Son nom m'échappait, qui dépose sa candidature, qui essaye de déposer sa candidature. Or, la loi fait qu'il n'a pas le droit, puisqu'il n'a pas un certain nombre d'années de résidence en Algérie. Il a renoncé à sa nationalité française. Mais il a un grand succès. Mmh. Il a un succès parmi les jeunes, parce qu'il a une manière de faire de la politique qui est ultra contemporaine, avec les réseaux sociaux, etc. Il a beaucoup d'argent, il a donné de l'argent à des démunis. Mmh. Enfin, voilà, il apparaît comme
ça. Ça a l'air d'être un drôle de personnage qui s'est déjà présenté en France.
Tout à fait. Qui c'est pas le seul.
Voilà. Non, non, absolument.
Il y a d'autres qui vont absolument. En Espagne.
C'est vrai. Mais après, les allers-retours, c'est plus compliqué, en fait. Mais, donc, il s'est déjà présenté. Il est rentré en Algérie, finalement, assez récemment, a renoncé à sa nationalité française.
C'est un personnage tout à fait étrange. Mais qui apparemment a quand même suscité beaucoup d'enthousiasme, c'est-à-dire qu'il y avait des mairies qui avaient dit qu'elles donneraient pas, qu'elles n'ouvriraient pas pour pas qu'il ait de signature. Il y a des foules qui sont déplacées pour forcer à rouvrir les mairies. Et il semble être apprécié. Or, si justement le pouvoir algérien décide de ne pas valider sa candidature, ça sera un signe de fermeture. Je veux dire, le pouvoir algérien peut bien décider de laisser se présenter. Et puis de faire en sorte qu'il ne gagne pas les élections.
Aussi.
Ça serait aussi quelque chose à moindre frais pour contrôler la situation en donnant un petit gage d'ouverture.
Et on verra donc comment ça se passera. Puisque en tout cas, nouvelle manifestation normalement mardi, c'est le 26. Et puis le 1er mars, donc, qui sera un signe important parce que c'est là que les candidatures sont validées. Exactement. Et on verra donc ce qu'il en restera. Merci beaucoup Laetitia Bucquet. Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter. Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
La suite, ça se passe au Brésil avec des Indiens qui se battent contre Bolsonaro, un président brésilien qui entend bien donner des terres à l'agro-business et qui en cela tient ses promesses électorales. Sous les radars est Amélie Perry avec notamment des Londoniens qui rêvent de pistes cyclables dignes de ce nom. Le Monde selon Trump, saison 3. Et Loïc Loury, bonsoir Loïc.
Bonsoir Fabienne.
Avec un président américain notamment qui n'a pas beaucoup aimé, on imagine, le discours de Spike Lee hier soir.
Oui, absolument. Et Donald Trump a encore fait très fort sur Twitter. Le président américain accuse tout simplement le réalisateur Spike Lee d'être raciste à son égard. On en parlera.
Allez, on voit ça ensemble. Le Monde à l'envers. Et Jean-Marc Faux, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Mauvais temps pour Benjamin Netanyahou en Israël.
Il est inoxydable, il est insubmersible, il est le grand favori des élections. Il est peut-être en train de s'oxyder.
Allez, à tout de suite. Le tour de la planète continue. Il passe par la Nouvelle-Zélande. Figurez-vous avec Aldous Harding. Le morceau s'appelle The Barrel. Et c'est sur la playlist 2019 de France Inter.
I feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hut. The water's the shell and or a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? You can't appear inside of nowhere. It's already day. I know you have the dove.
C'est pas mal ça, dites-moi. Ça s'appelle The Barrel, signé Aldous Harding sur France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimo Capion.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Amélie Perrier. Amélie, le lendemain de fête qui vire au drame, ça se passe en Inde.
Au moins 156 personnes sont mortes ce week-end dans le nord-est du pays après avoir bu de l'alcool frelaté. 156 morts et 200 hospitalisations dans l'état de l'Assam. L'affaire survient moins de deux semaines après un drame similaire. Une centaine de personnes avaient succombé à de l'alcool frelaté. La plupart des victimes sont des femmes travaillant dans les plantations de thé de la région. Des Indiens pauvres, victimes d'une mafia très bien installée ou de petits malfrats comme celui-ci qui témoigne vis-à-vis caché à la télé indienne. Alors il dit, j'avais 21 ans quand j'ai commencé à faire ça, ça fait 2 ans et demi qu'il trafique des bouteilles. Ça se fait beaucoup dans l'Uttar Pradesh, dit-il, et l'état d'Haryana, et souvent l'alcool d'Haryana est mélangé avec celui de l'Uttar Pradesh. Voyez le trafic. Malgré les opérations de police, on estime aujourd'hui que sur les 5 milliards de litres d'alcool bu chaque année dans le pays, 40% sont produits illégalement. Alors l'Inde débat autour de la prohibition, une solution pour certains, le meilleur moyen de développer les distilleries illégales, disent les autres.
Les éléphants du Botswana en danger, même dans l'un des derniers sanctuaires d'Afrique.
Et ce n'est pas qu'un problème de biodiversité, c'est aussi une histoire politique. Le Botswana, c'est un état enclavé du sud de l'Afrique, entre la Namibie et le Zimbabwe, connu pour abriter un tiers de la population d'éléphants du continent. Une ONG, Éléphants sans frontières, vient de rendre les conclusions de son étude menée là-bas tous les 4 ans. Et le constat est sans appel, le nombre de pachydermes braconnés a été multiplié par 6 en 4 ans. Mike Chase, le chercheur qui a mené l'étude, a montré les carcasses à un journaliste de la BBC lors d'un survol en hélicoptère. Alors il dit, Mike Chase, cette zone en particulier, c'est un haut lieu du braconnage. Dans ces 1000 km², il y a 88 éléphants tués. Et les stigmates sur les carcasses ne laissent aucun doute, selon lui, c'est du braconnage pour récupérer l'ivoire. Un constat démenti par le pouvoir au Botswana. Le président a parlé du pire canular du 21e siècle. Les permis de recherche de Mike Chase ont été annulés. Le problème, en fait, c'est le changement de président au pouvoir. Car longtemps, le Botswana, qui abrite 130 000 éléphants, a été sans merci avec les braconneurs. Mais le nouveau chef de l'État a décidé de retirer aux unités anti-braconnage leurs armes, au prétexte qu'ils n'étaient pas militaires. Et puis, il prend davantage parti pour les habitants, dont les maisons sont menacées, voire détruites par les transhumances des éléphants. Ils font, c'est vrai, beaucoup de dégâts sur leur chemin. Une consultation qu'il a engagée recommande ainsi de lever l'interdiction de chasse et d'utiliser la viande d'éléphant pour nourrir les animaux. Mike Chase, le scientifique lanceur d'alerte, est proche de l'ancien président et à quelques mois d'élections cruciales, son cri d'alarme sur le braconnage est vu pour certains comme un acte politique.
Et puis vous connaissez le train fantôme, hein, on connaît tout ça, c'est bien amusé là-dedans. Londres est en train de créer des vélos fantômes.
Oui, le maire de la capitale britannique est de plus en plus critiqué à cause de son réseau de pistes cyclables. Voilà ce que dit Sadiq Khan en 2016. Alors en tant que parent, je n'aurais pas assez confiance pour autoriser ma fille à rouler à vélo dans Londres, dit le maire. L'ambition, c'est de s'assurer que vous pouvez circuler à vélo dans Londres dans les conditions les plus faciles et les plus sûres possible. Mais voilà, un article du Guardian, un habitant du sud-ouest de la capitale, il est censé vivre sur un axe de 140 km de pistes cyclables. Sauf que selon lui, on n'y passe pas à deux vélos de face. Le bitume est fissuré, plein de trous, il n'a pas été rénové depuis des années, pas de signalisation non plus. Alors Andrew Gilligan, le monsieur vélo de la précédente majorité, accuse Sadiq Khan d'avoir passé la vitesse supérieure, mais pas pour la construction des pistes, plutôt pour en faire la publicité. Il accuse même la municipalité d'avoir posé des panneaux, voies réservées aux vélos, sur des itinéraires interdits, comme le chemin de halage de la Tamise. En tout cas, les Londoniens, même énervés de ne pas pouvoir circuler en deux roues, gardent leur humour inimitable. Certains disent regretter l'absence d'un réseau cyclable, au moins jusqu'à la prochaine averse.
Oui, parce que c'est un peu ça le souci quand même au niveau du vélo.
En vélo.
Amélie Perrier, merci beaucoup. À demain.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare,
Jérusalem,
Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
C'est au Brésil que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir, au Brésil, où l'un des premiers actes du président Bolsonaro était de restreindre les droits des Indiens par décret, sans consultation. Évidemment, vous allez comprendre ce que ça veut dire dans les faits. C'est une promesse de campagne, figurez-vous. Un cadeau donc à ses alliés de l'agro-business qui a déjà des conséquences graves sur les gens et aussi sur l'environnement. Bonsoir Anne Vigna.
Bonsoir.
Anne, les Indiens ont décidé de réagir, ils ont attaqué en justice le décret, ils comptent bien continuer une mobilisation nationale et internationale. Vous les avez suivis dans leur combat, vous avez suivi les Guarani, notamment devant le ministère de la Justice de Sao Paulo.
C'est un homme, torse nu, peinture sur le corps, qui harangue une centaine d'Indiens réunis devant l'imposant bâtiment de la justice à São Paulo. Les badauds, en costard cravate, s'arrêtent pour voir cette mobilisation peu commune dans cette ville. David, 35 ans, est un des leaders de l'ethnie Guarani à São Paulo et il ne mâche pas ses mots pour dire sa colère et son inquiétude.
Le nouveau président a mis fin à tous les droits des indigènes dans ce pays. Le nouveau président a déclaré la guerre aux peuples autochtones. Un gouvernement qui se croit supérieur à tous, qui annonce la fin de la politique indigéniste au Brésil. Nous, peuple autochtone, n'acceptons pas que notre territoire soit envahi. Après l'action de ce gouvernement, les terres indigènes du Brésil ont commencé à être envahies. Les menaces de mort ont commencé à se produire. La population brésilienne ne peut pas rester silencieuse. Pas même ceux qui ont voté pour ce gouvernement. C'est une mesure inconstitutionnelle, inhumaine. Nous avons toujours été ici. Nous sommes les peuples autochtones. Si l'Indien n'a aucun droit dans ce pays, qui aura des droits ?
Nous sommes les peuples originaires. Si l'Indien n'a pas de droit dans ce pays, qui va avoir droit dans ce pays ?
Jair Bolsonaro avait promis pendant sa campagne que les Indiens n'auront pas un centimètre de terre durant son mandat. Il a tenu promesse quelques heures après son investiture, le 1er janvier dernier, en changeant les règles pour attribuer les terres ancestrales aux Indiens. Désormais, c'est le ministère de l'Agriculture qui en a la charge. Or, la nouvelle ministre, une représentante de l'agrobusiness, a toujours vu ces terres comme une nouvelle frontière agricole et souhaite justement les ouvrir à l'exploitation. D'où l'inquiétude exprimée par Emilson Gonzalves, il est anthropologue et il a participé à la rédaction de la plainte contre le décret du président.
Nous avons peu d'espoir, mais il existe encore. La démarcation des terres sera à présent réalisée par le ministère de l'Agriculture et plus par la FUNAI. Nous sommes dans une situation très critique, parce que le ministère de l'Agriculture a toujours été contraire aux droits des autochtones et peu sensible aux questions écologiques. Donc à partir du moment où l'agriculture va gérer à la fois les permis d'exploitation et les terres indigènes, cela revient à inviter le zèbre à la fête du lion.
Depuis l'élection de Jair Bolsonaro, les peuples indiens se préparent donc au pire. Mais comme le dit Laetitia, venue en appui aux Guarani, il n'est pas facile d'accepter un tel recul après des années de lutte pour obtenir des droits.
Mon nom est Laetitia, mon nom autochtone est Andioba et je suis de l'ethnie Payaya. C'était très triste de voir la population brésilienne voter pour un président qui, depuis ses premières prises de parole, a toujours déprécié les personnes autochtones, pas la cause autochtone, mais des personnes autochtones, des êtres humains. Dans la Constitution fédérale, il existe les lois 231 et 232 qui garantissent la démarcation et il veut annuler tout cela avec des décrets. Donc, il est inconstitutionnel, il est abusif. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers la communauté internationale, car nous ne pouvons pas être à la merci d'un noyau de personnes qui pensent que le développement du pays signifie détruire la nature, diviser le territoire.
L'espoir de voir la communauté internationale réagir est pourtant loin d'être garanti. Les représentants de l'agrobusiness insistent toujours pour que les décisions sur cette question soient exclusivement traitées par un Brésil souverain. Et que les Indiens n'ont pas à avoir plus de droits que les autres, répète Francisco de Godoy, il est vice-président de la Société Rurale Brésilienne.
Enquanto brasileiros, nós também temos que...
En tant que Brésiliens, nous devons également planifier le territoire brésilien de manière coordonnée. Et il est clair que les particularités culturelles des communautés autochtones doivent être préservées. Mais ils doivent aussi respecter le droit des autres Brésiliens qui vivent là, au-delà de leurs frontières, et que parfois ils ne reconnaissent pas. Ce sont des Brésiliens comme les autres, et ils doivent respecter les lois brésiliennes. La politique indigéniste retire les terres des agriculteurs pour les transférer à une communauté. C'est cette manière de créer des territoires autochtones sans prendre en compte les intérêts des communautés qui sont autour, que le nouveau gouvernement promet de transformer.
Un discours bien rodé dans lequel les Indiens deviennent ceux qui ne respectent pas la loi et qui nient la réparation historique promise aux premiers habitants de ce territoire. Aujourd'hui, les Indiens ne représentent que 0,4% de la population brésilienne, mais leur territoire préservé attise les appétits. Quitte à jeter en pâture une constitution qui, il y a 30 ans, leur assurait au contraire un droit inaliénable sur leurs terres ancestrales.
Anne Vigna pour le reportage et pour Un jour dans le monde. Il s'appelle Chuck Lowe et le voici sur France Inter.
Dugi 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 dug
Tcheklo sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saintès.
I promise you it's going to change.
Un jour dans le monde.
Le Monde selon Trump est saison 3 et Loïc Loris ce soir. Loïc, le président américain prend donc l'avion. Il est parti, là d'ailleurs, pour aller rencontrer le dictateur nord-coréen, donc Kim Jong-un. Ça se passe au Vietnam. En attendant, il se déchaîne sur son terrain de jeu favori habituel, Twitter.
Ah oui, déjà une bonne dizaine de messages postés. Il est question des Oscars, on y reviendra. Il est question également de son mur à la frontière mexicaine. La drogue, les gangs, le trafic humain doivent être stoppés, dit-il. Le refrain est connu. Donald Trump évoque aussi sa rencontre à venir avec Kim Jong-un et il prophétise déjà que le dirigeant nord-coréen prendra une sage décision, à savoir la dénucléarisation totale de son pays. Aucune vraie avancée pourtant n'a été observée au cours des derniers mois. Mais cela n'empêche pas Trump, Fabienne, de se moquer de ceux qui ont échoué pendant des années et lui explique aujourd'hui comment lui doit négocier avec Pyongyang. On verra bien mercredi comment il s'y prend.
Alors Donald Trump bientôt en route, donc enfin en route même pour Hanoï. Son vice-président, lui, est à Bogota en Colombie.
Oui, Mike Pence qui rencontre l'opposant vénézuélien Juan Guaido, reconnu président par une partie de la communauté internationale. Le président et son numéro 2 sont donc absents. C'est mécaniquement Nancy Pelosi, la numéro 3, qui sera pour quelques heures la figure la plus puissante aux États-Unis. C'est assez rare, explique un historien spécialiste de la présidence américaine cité par la presse. La Maison-Blanche, dit-il, essaye d'éviter habituellement un tel scénario. L'affaire ici est assez cocasse puisque Nancy Pelosi, la chef de file démocrate à la Chambre des représentants, est aussi opposante principale à Donald Trump, mais pas de coup d'État attendu pour autant. Nancy Pelosi a fait savoir qu'elle était à New York ce matin avant de retourner à Washington. Son emploi du temps n'a pas été modifié.
Alors Twitter, on y revient, et le président qui s'est attaqué ce matin à Spike Lee, le réalisateur récompensé hier soir aux Oscars.
Et tout premier Oscar pour le cinéaste noir, snobé par le passé, il obtient la récompense du meilleur scénario adapté, Black Landsman, l'histoire d'une opération de police qui visait à infiltrer le groupe suprémaciste blanc du Ku Klux Klan dans les années 70. Le réalisateur est arrivé comme un tourbillon sur scène, il a sauté dans les bras de son ami, l'acteur Samuel L. Jackson, avant de délivrer une tirade, notamment à l'intention du président américain, mais sans jamais le citer.
Before the world tonight, I give praise to our ancestors.
Face au monde entier, ce soir, je rends hommage à mes ancêtres qui ont aidé à bâtir notre pays, ainsi qu'à la mémoire des victimes du génocide des peuples autochtones. Nous devons nous reconnecter à nos ancêtres. Nous gagnerons en amour et en sagesse. Nous regagnerons notre humanité. Le moment est important. L'élection présidentielle de 2020 arrive bientôt. Mobilisons-nous. Soyons du bon côté de l'histoire. Nous devons faire le bon choix entre l'amour et la haine. Faisons ce qui est juste.
Voilà, Donald Trump, lui, ne s'est pas fait prier pour répondre sur Twitter. Ce serait bien, dit le président, si Spike Lee arrivait à lire ses propres notes, ou mieux, s'il n'avait pas besoin de notes du tout pour proférer des attaques racistes contre votre président. J'ai fait plus, assure-t-il, pour les Afro-Américains que n'importe quel autre président. Il cite la justice, le chômage, des baisses d'impôts, etc., etc. On rappelle que Spike Lee n'avait à aucun moment cité Donald Trump.
Voilà, et puis, puisqu'on parle du Ku Klux Klan, en tout cas, au travers du film de Spike Lee, le spectre plane toujours sur l'Amérique, Loïc, notamment dans les États du Sud.
Épreuve en est cette histoire venue d'Alabama il y a une dizaine de jours. Le propriétaire et rédacteur en chef d'un minuscule journal, le Démocrate Reporter, publiait un éditorial intitulé comme tel « Clan needs to ride again ». Le clan doit remonter à cheval, quelque chose comme ça. Il s'appelle Goodloe Sutton et le texte qu'il publie est à peine croyable. Il faudrait, dit-il, que le Ku Klux Klan nettoie Washington. Il appelle ouvertement pour cela à des lynchages contre ceux qu'il appelle les socialistes communistes. Face au scandale, il a démissionné. C'est une Africaine-Américaine, Alessia Dexter, qui a pris sa place. Elle n'était là que depuis 6 semaines. Sutton, ceci dit, va malgré tout rester propriétaire du journal. Et le comble, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, ce même Goodloe Sutton, Fabienne, était présenté comme un candidat potentiel au Pulitzer, la récompense suprême pour un journaliste.
Eh bien, dites-moi, Loïc Loury et Le Monde selon Trump, saison 3 dans Un jour dans le monde. Merci Loïc.
Le 18-20, Fabienne Saintès. Sur France Inter.
Le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four. Jean-Marc, la campagne électorale bat son plein en Israël, où les listes sont désormais closes. Le vote, on va le rappeler, c'est le 9 avril. Et l'inoxydable Benjamin Netanyahou, grand favori du scrutin, lui, en revanche, est en grande difficulté. Sa défaite est possible et c'est un événement en soi. Et c'est votre monde à l'envers.
À vrai dire, il y a une semaine encore, Bibi, comme on l'appelle, paraissait insubmersible, presque assuré de l'emporter à nouveau dans un peu plus d'un mois, après déjà 13 années au poste de Premier ministre, dont 10 consécutives depuis 2009. Benjamin Netanyahu est en passe de battre le record de longévité au pouvoir détenu en Israël, détenu par la figure historique du pays, David Ben-Gourion. Sauf que, depuis une semaine, les nuages s'accumulent et l'impossible, donc un échec de Netanyahu, devient une hypothèse plausible. Commençons par les nuages strictement politiques. D'abord, une alternative crédible est apparue la semaine dernière avec l'alliance dans le mouvement Kaol Lavan de l'ancien chef d'état-major Benny Gantz et du dirigeant centriste Yair Lapid. Précisons que la gauche continue d'être pathétique et au fond du trou. En revanche, cette alliance de centre-droit peut séduire de nombreux électeurs israéliens. Dans un premier sondage publié hier par le grand quotidien Yediot Aharonot, Kaol Lavan arrive d'ailleurs devant le Likoud, 35 sièges contre 29. Ça se complique aussi pour Netanyahou à l'intérieur de son propre parti. Comme toujours, les électeurs du Likoud ont désigné, dans une primaire, les candidats qui accompagneront le Premier ministre sur la liste du parti. Résultat, un désaveu pour Netanyahou avec le choix de plusieurs dirigeants qui sont des rivaux internes, notamment Gideon Saar, mais aussi Yuri Edelstein ou Israël Katz. Autant d'hommes qui semblent viser le coup d'après, c'est-à-dire la succession de Netanyahou, parce que Bibi est aussi sous la menace de la justice.
Et là aussi, ça pourrait se préciser cette semaine.
Absolument. Tic-tac, tic-tac, c'est le compte à rebours que tout le monde regarde en Israël. La décision du procureur général Avishai Mandelblit qui semble imminente. Il doit décider s'il inculpe le Premier ministre de corruption, fraude et abus de pouvoir. Rien que ça. La décision n'est pas facile. Le procureur fait l'objet d'intimidations, de menaces de mort et sa décision aura forcément un impact sur la campagne. Mais l'enquête semble achevée. Les conclusions de la police vont dans le sens d'une inculpation. En fait, d'ailleurs, il ne s'agit pas d'une mais de 3 enquêtes. En Israël, on les appelle les affaires 1000, 2000 et 4000. Et les deux plus sérieuses sont la 1000 et la 4000. Alors, l'affaire 1000. Benjamin Netanyahou est soupçonné, d'avoir reçu des cadeaux de millionnaires et de businessmen pour l'équivalent d'environ 250 000 euros en échange de faveurs diverses. Affaire 4000, le Premier ministre aurait marchandé le soutien d'un site d'information très populaire contre une décision favorable à un groupe de télécom. Et comme par hasard, le site et l'opérateur de téléphonie appartiennent au même propriétaire. Forcément, ça interpelle. S'il est inculpé cette semaine, Netanyahou ne se privera sans doute pas de crier au complot politique. Mais son image sera quand même sérieusement endommagée.
Et en même temps, on sait qu'il a de la ressource, non, ce garçon?
C'est un fin tacticien, il a plusieurs vies, il ne faut pas le sous-estimer. Il peut se targuer d'un bilan économique et sécuritaire positif aux yeux d'une grande majorité d'Israéliens. Cela étant, sa dernière manœuvre tactique pour sauver sa majorité laisse pantois. Il a autorisé son parti à envisager une alliance avec un parti extrémiste et même raciste, Force Juive. C'est une chose de faire comme Trump et de critiquer les médias, les ONG, les intellectuels. C'en est une autre que de s'allier à une formation comme Force Juive, héritière directe du mouvement Cash de l'ex-rabbin Meir Kahan. De quoi parlons-nous là? D'une organisation ultra-radicale interdite en Israël en 1988 et qui a inspiré le terrorisme d'extrême droite, l'assassinat de 29 Palestiniens dans le caveau d'Hébron en 1994 par Baruch Goldstein, qui était un disciple de Meir Kahan. Force Juive veut aujourd'hui prendre le contrôle de l'esplanade des mosquées à Jérusalem et annexer toute la Cisjordanie. En résumé, Netanyahou ne recule devant rien, il parie sur un glissement de la société israélienne vers l'extrême droite. C'est un pari qui peut fonctionner tactiquement, mais Israël y perdrait au passage une partie de son âme.
Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers tous les jours, dans Un jour dans le monde. Jean-Marc, merci beaucoup. On se retrouve demain, le 18-20. La suite, c'est le journal de Pierre Veille ce soir, et puis le téléphone sonne. À tout de suite.